C'est l'homme qui, réfléchissant sans cesse sur la technique, a le mieux montré comment le numérique pénétrait nos consciences.
C'est peut-être le philosophe qui est le plus articulé à une figure majeure de notre temps, qui est celle du lanceur d'alerte.
Prénom ?
Bernard.
Nom ?
Stigler.
Date de naissance ?
1er avril 1952.
Jeunesse ?
Chaotique, alcoolisée. Si on veut lui donner un sens, on va dire rimbaldienne.
Profession ?
Avant de devenir philosophe, nombre de métiers, manuels. Il a même tenu un bar, joyeusement achalandé, à Toulouse.
Casier judiciaire ?
Condamné à 8 ans de détention pour braquage, au pluriel, de banque.
Et donc, prison ?
5 ans effectués. Mais qu'il vit comme une expérience extraordinaire de suspension du temps. Il y commence ses études de philosophie.
Diplôme ?
Doctorat, sous la direction de Jacques Derrida.
Carrière ?
Parcours, plutôt. Il collabore à nombre d'institutions, le Centre Georges Pompidou, la BNF, la RATP. Des fonctions de manager à l'INA et à l'IRCAM. Il préférait d'ailleurs le mot « patron ». Professeur à l'Université de technologie de Compiègne qui forme des ingénieurs.
Œuvre principale ?
Oh, quantité de livres qu'il dictait en rafale. Les plus connus du public, « Aimer »,« S'aimer »,« Nous aimer » et « La télécratie contre la démocratie ». Un tout récent, le cas Greta Thunberg.
Mort ?
Volontaire, ce 5 août 2020, dans son moulin d'Épineuil, dans le Cher.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Nous venons de perdre un philosophe qui, se tenant à la croisée de nombre de disciplines, était à l'acmé de sa force. Il a si bien décrit notre réalité brisée qu'il a fini par la considérer comme décourageante. Mais son œuvre, que nous allons effleurer à peine, ses multiples interventions, dont nous ne décrirons que quelques-unes, disaient au contraire la possibilité d'une société qui ferait leur place à nos propres désirs d'émancipation. Dans un long entretien à voix nue, qu'il donna au début de cette année, Bernard Stigler parlait plus longuement que d'habitude de sa jeunesse. Faut-il y voir un signe ? Il la décrivait comme celle d'un octambule impénitent. Il y notait aussi la présence de certains aînés qui témoignaient certes d'un abandon à l'alcool, mais aussi d'une révolte profonde. Versé dans les classes professionnelles, bientôt déscolarisé, Bernard Stigler, qui a une fille dès l'âge de 19 ans, devient technicien à Sarcelles, puis à la ferme.
Je trouve une petite ferme à louer, une fermette, disons, et je me fais embaucher comme chauffeur agricole. J'ai 22 ans. Et voilà, et pendant un an, un peu plus d'un an, je vais tout faire, les labours, les moissons, oui, les foins, etc., avec du matériel. Donc je vais apprendre, par exemple, à moissonner avec une moissonneuse-batteuse. Je vais beaucoup aimer ça. Je vais beaucoup aimer ça et j'adore la campagne. Au début, c'est vraiment la disette quand même, hein. Vraiment la disette. Je vais à la pêche avec une canne que je me suis faite moi-même, c'est-à-dire un bambou que j'ai coupé, j'ai acheté une ligne chez le quincaillier du coin, une ligne à 2 balles, et je pêche des gardons et des goujons dans le petit espace qui est derrière un moulin à eau. Un petit trou d'eau, là. Et je suis en train de pêcher comme ça. J'y vais souvent à la pêche, parce que c'est souvent ce qu'on mange, en fait. Et un jour, ce petit moulin, il est sur la route qui va à ma ferme. Et ma ferme, c'est la dernière. Après, il n'y a plus rien. Et donc, toutes les voitures qui passent vont vers chez moi. Voilà. Et un jour, je suis en train de pêcher. Et je vois passer une R16, à l'époque, c'est la voiture haut de gamme de Renault. Je vois une R16 noire qui passe, et je me dis, oh ça me dit rien qui vaille. Donc la R16 passe, et 20 minutes après, elle repasse dans l'autre sens, et elle s'arrête sur le pont. Et un monsieur descend, et me dit, est-ce que vous ne seriez pas monsieur Stigler ? Je dis, oui, en effet, je suis Bernard Stiegler. Il me dit, je suis huissier de justice. Vous devez, je sais pas combien de milliers de francs à la SIC. Donc, je viens saisir vos meubles, me dit-il. Et bien, je lui dis, vous pouvez saisir ma canne à pêche et mes poissons. Parce que les meubles, ils sont pas à moi. J'ai loué une fermette meublée. Donc, vous pouvez pas y toucher. Donc, prenez la canne à pêche et les poissons, si vous voulez. Alors, le monsieur est très surpris. Et en fait, il est sympathique.
Alors plus tard interviendra un moment apparemment plus favorable. Stiegler va tenir à Toulouse l'écume des jours, un bar haut en couleur, un bar musical qui a beaucoup de succès pendant un moment. Mais la banque l'abandonne et supprime le découvert qu'elle avait autorisé. Eh ben, ni une ni deux, Stiegler en rage, la braque, puis en braque d'autres, procès, condamnation, prison. L'écume des jours, le bar était fréquenté par un philosophe et éditeur, Gérard Granel, qui a parlé à Bernard Stiegler de Husserl, l'homme de la phénoménologie. Phénoménologie. Vous savez, quand vous avez un verre de l'eau, que vous mettez un sucre dans l'eau, la phénoménologie va s'intéresser pas tant au verre et à l'eau qu'au temps que met le sucre à se dissoudre, à la minute et demie, qui compte, qui est très importante. Oui, mais la prison pour Stiegler, ça va être 5 ans.
J'avais pas peur de la solitude du tout. Donc.
D'ailleurs, vous allez militer pour avoir une cellule indépendante.
Ah, je vais pas seulement militer, mais je vais me battre. Là, je vais me battre comme un chien. C'est-à-dire que ça, c'était le truc absolument non négociable. J'ai arrêté de manger. Je disais, tant que je serai pas seul en cellule, j'arrêterai. Je mangerai plus. Donc, bon, on m'a dit, vous allez au mitard. Je dis, je vais au mitard. Donc, j'ai fait du mitard. Et après, ils m'ont ressorti parce qu'ils n'ont pas le droit de vous laisser au mitard plus d'un mois, etc. Donc, j'étais en QHS. J'ai vraiment connu tous les endroits, disons, de pénalisation interne. Mais moi, je m'en foutais de tout ça. Parce que ce qui m'importait, c'était qu'on me laisse travailler. Donc, je voulais être seul pour pouvoir travailler. Enfin, quand je dis travailler, au départ, je voulais pas travailler, je voulais lire. À partir de là, je me suis dit, et ça, ça a été ma grande chance, je me suis dit, mais j'ai la chance extraordinaire d'être dans un laboratoire phénoménologique à plein temps. Et donc, je vais pouvoir produire des expériences philosophiques uniques dans l'histoire du monde. Husserl, lui, est obligé de faire des efforts pour suspendre la thèse du monde. Moi, de toute façon, elle est suspendue de fait.
De fait.
Voilà. Et à partir de là, je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir que, quand même, il reste quelque chose dans ce non-monde où je suis. Ça s'appelle les livres. Et c'est là que je vais découvrir Derrida, qui va accorder à l'écriture et au livre une place tout à fait particulière. Voilà. Et lui, c'est lui-même un spécialiste de Husserl. Hein. C'est un des traducteurs de Husserl, comme Gérard Granel. Ils étaient en classe ensemble, d'ailleurs, ils se connaissaient très bien. Et c'est comme ça que je vais me mettre à étudier Derrida.
Au bout de 5 ans de détention, replongé dans la ville, vous ne savez peut-être plus traverser une rue, mais peut-être voyez-vous un peu plus clair sur le monde.
Ma fille, Barbara, elle était normalienne à l'époque, m'avait dit, mais quand même, pourquoi es-tu si sombre tout le temps? Alors je lui avais répondu, maintenant, toi et ton frère, vous êtes des adultes. Donc je vais vous dire ce que je pense depuis longtemps. Et donc je leur ai raconté que quand j'ai quitté la prison de Muret, j'ai été libérable, comme on dit, j'avais fait 5 ans de prison, et il se trouve qu'un de mes amis, qui s'appelle Jean-Luc, en prison, j'avais pas beaucoup d'amis en prison, mais lui c'était un ami, était libérable comme moi, une semaine près. Et j'avais essayé de lui expliquer que la sortie allait être plus dure que d'entrer en prison, que ça serait plus dur de sortir, et surtout qu'il fallait savoir que le monde allait empirer énormément.
Pourquoi, à sa sortie de prison, ses travaux vont-ils mener Bernard Stiegler vers la question de la technique, Monsieur Lebrun?
Eh bien parce que la technique, parfois impensée par la philosophie, n'est pas extérieure à l'homme, elle participe de l'hominisation, qu'on se souvienne de la pierre taillée. Dès sa sortie de détention, Bernard Stiegler a filé voir Jacques Derrida, qu'il avait lu en cellule. Jacques Derrida crée le Collège international de philosophie en 1983 et il a l'audace de lui confier dès 1984 un séminaire sur la technique. Sa thèse porte sur la technique et le temps. Ses travaux pour les institutions, pareillement à la Bibliothèque nationale de France, il s'occupe ainsi de la conception des postes de lecture assistés par ordinateur. Une autre des constantes de Stigler, c'est l'association de chercheurs de différentes disciplines. Sur ce principe, Marc Crépon a fondé avec lui Ars Industrialis autour de cette question, dans un temps dominé par les techniques issues de l'économie de marché, comment aider à l'individuation de chacun.
Dans le fond, une grande partie de la philosophie, la tradition phénoménologique, est une philosophie de la conscience, donc une philosophie du jeu, héritière de l'ego cogito cartésien. Et puis, il y a évidemment toute une grande tradition de philosophie du tu. C'est ensuite Emmanuel Levinas, et c'est toutes ces philosophies qui se sont construites au XXe siècle et qui sont si importantes comme une rencontre de l'altérité. Ou aussi comme des philosophies de l'adresse à l'autre. Et puis, beaucoup plus rarement, il y a des philosophies du nous qui peuvent prendre deux formes. Les philosophies de nous, c'est les philosophies de la première personne du pluriel. Donc ça peut être des philosophies de l'appartenance. Et ça peut être des philosophies terribles. Ça peut être toutes les formes de pensée philosophique qui ont construit des appartenances collectives, identitaires, qui ont pu se révéler profondément meurtrières. Moi, quand j'ai rencontré Bernard Stiegler, une grande partie de mon travail philosophique, avant qu'on se rencontre, avait consisté dans une déconstruction de ces philosophies meurtrières du nous et de toutes ces constructions fantasmatiques de l'appartenance. Et Bernard, qui avait tout à fait conscience, effectivement, de ces dérives meurtrières de l'invocation de l'appartenance, lui, il avait... et c'est ça qui m'a apporté au départ, que j'ai trouvé extraordinaire, il avait une vision, non pas positive du nous, mais il savait qu'on ne pouvait pas penser l'individuation du jeu indépendamment de l'individuation du nous. Il savait que toute construction du jeu se construit, se fait aussi dans son articulation à un nous qui ne veut pas dire identitaire, qui ne veut pas dire national, qui ne veut pas dire, mais à quelque chose comme du collectif. Et puis, tout simplement, pour Stiegler, l'articulation du jeu et du nous, c'est le principe même de la politique. Il n'y a pas de politique sans philia. C'est le philia, au sens, c'est le mot grec qui veut dire l'amitié, et c'est ce dont Aristote fait le sentiment fondamental dont on a besoin dans la cité. Et là, quand je dis ça, j'arrive au cœur de la philosophie de Bernard Stiegler et à son engagement, puisque dans le fond, toute sa critique des industries de programme, toute sa critique des technologies industrielles, ça revient à dire que leur effet premier, direct, permanent, c'est de détruire la possibilité même de la philia. C'est pour ça qu'il était si sombre, c'est pour ça qu'il était si inquiet, c'est pour ça qu'il était si en colère.
Inter. Intelligence, service.
La technique pour Stiegler, c'est donc la meilleure et la pire des choses, pour reprendre la langue d'Ésope. Mais lui, il préfère celle de Platon. Un pharmacone, un remède, et aussi bien un poison. La technique, un remède, l'homme est ce vivant qui épanouit ses qualités par les objets qu'il produit. La technique, un poison, bah oui, parce que l'homme peut devenir aliéné à son emploi, aux objets qu'il y fabrique, qui lui deviennent illisibles, il ne sait plus à quoi ils servent. La disruption numérique en est le dernier exemple en date, le plus formidable, peut-être formidable, qui fait peur. Qui sait encore mettre les mains dans le cambouis du numérique? Qui en comprend encore les mécanismes? Ce qui aurait pu nous fournir les moyens d'une émancipation nous prolétarise.
La prolétarisation, c'est historiquement la perte du savoir du travailleur face à la machine qui a absorbé ce savoir. Aujourd'hui, la prolétarisation, c'est la standardisation des comportements à travers le marketing et les services et la mécanisation des esprits par l'extériorisation des savoirs dans des systèmes tels que ces esprits ne savent plus rien de ces appareils de traitement de l'information qu'ils ne font plus que paramétrer. C'est précisément ce que montre la mathématisation électronique de la décision financière. Or, cela affecte tout le monde. Employés, médecins, concepteurs, intellectuels, dirigeants, de plus en plus d'ingénieurs participent à des processus techniques dont ils ignorent le fonctionnement, mais qui ruinent le monde. Ainsi s'installe une véritable bêtise systémique qui règne au plus haut niveau des États, des partis, des organisations internationales et des multinationales. Prenons l'exemple d'Alan Greenspan, ancien patron de la Réserve fédérale américaine, dont l'incurie a tant contribué à la crise de 2007. Il a expliqué benoîtement à la Chambre des représentants de Washington qu'il ne savait pas comment marchait le système. Il est très inquiétant de voir le plus haut responsable du secteur bancaire mondial reconnaître son ignorance et révéler son incompétence. Les travailleurs n'ont plus de savoir-faire, les consommateurs n'ont plus de savoir-vivre, les concepteurs et les décideurs n'ont plus de savoir théorique, c'est-à-dire critique, et ils sont les complices, volontaires ou non, d'escrocs et de mafieux qui exploitent cette situation d'incurie.
Ceci est le texte d'une interview au Monde en 2010. Stiegler répond au journaliste, il va au contact. Un haut responsable le sollicite, celui de Dassault Systèmes ou du Crédit du Nord. Et bien, a priori, il est prêt à œuvrer avec lui. A fortiori, quand il s'agit d'un élu local, le maire de la petite commune du Pas-de-Calais, Lansan Goël, aussi bien que le président de pleine commune. Patrick Braouezek, qu'on va entendre maintenant, a été maire communiste de Saint-Denis. Il est devenu président de pleine commune, un établissement intercommunal de grande ampleur, de beaucoup d'ambition, qui regroupe au nord de Paris 9 communes, soit 400 000 habitants. Quand Braouezek demande à rencontrer Stiegler, il se demande si les emplois qu'il a réussi à amener sur pleine commune pourront y rester. Et Stiegler lui répond, ben non.
J'ai eu en l'espace d'une quinzaine de jours, 3 expériences qui m'ont montré qu'il disait vrai. Première, c'est Siemens qui inaugurait son nouveau siège. Et au milieu du discours du président de Siemens qui venait, qui est son discours d'inauguration, est arrivé un robot, une hauteur d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, puis qui a commencé à parler en interrompant le président et en lui disant que tout ce qu'il disait était juste. Voilà. Puis à un moment, il a dit, bon, bah écoutez, je m'en vais, je retourne, je vais à Berlin, où il y avait, une grande manifestation robotique. Donc ça surprend déjà. Il se dit, puis il remonte dans sa carriole, et puis il repart. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, on avait les initiatives de pleine commune promotion, et pendant les interventions et les tables rondes, il y a eu une imprimante 3D, qui, en espace de 2 heures, nous a fait un tuyau coudé, voilà. Et puis, quelques jours après, j'ai rendez-vous avec la directrice régionale de la Poste, Et on fait le point sur la charte entreprise-territoire, puisqu'on fait signer aux entreprises des chartes d'engagement sur les questions d'emploi. Et là, elle me dit, vous savez, des facteurs, bon, on en a encore, mais dans les agences, on mécanise la plupart de nos services maintenant, il y a de moins en moins de gens dans les agences. Et donc, tout ça me fait dire, mais Stiegler a raison, quoi. On est dans une révolution du monde du travail. Et c'est peut-être ceux qui sont aujourd'hui dans les tâches les plus précaires, les plus difficiles, qui risquent d'être les premiers touchés par cette robotisation, cette automatisation.
Le nouvel âge de l'automation fait disparaître des emplois. Reste, dit Stiegler à Brauwezek, le travail. Le travail, c'est autre chose que l'emploi. Il cite l'étude de l'économiste Amartya Sen, qui au Bangladesh note que des communautés maintiennent ce qu'il appelle des « capabilités ». Stiegler reprend le mot, parce qu'il aime la création néologique. Le nouveau capitalisme a bien inventé l'employabilité, l'apprentissage de compétences qui permettent d'entrer dans ces normes. Eh bien, la « capabilité », c'est l'entretien et l'enrichissement d'un savoir par la mutualisation des apports singuliers dans un entourage proche. À la Plaine Commune, il y a, à ciel ouvert, des garages, des académies de mécanique, comme en rêvait Bernard Stiegler, où chacun, les mains dans le cambouis, exerce son métier. Vous pouvez nous dire, Lassina, vous aviez formation sur le tas dans votre pays, la Côte d'Ivoire ?
Oui, on a une formation de mécanicien, de mécanique en général. Voilà, en fait, c'est pas qu'on a des diplômes de mécanicien ou de mécanique, c'est du boulot qu'on a appris sur le tas, on a appris depuis tout petit. Au fur et à mesure qu'on grandit, on grandit avec la technique, au fait. Bon, c'est dans ce cadre que quand on s'est retrouvé en France et on a, sans boulot, sans papier, on était obligé d'exercer le même travail. C'est pas évident, c'est pas facile, mais bon, on n'avait pas le choix. Il fallait travailler, il fallait vivre.
Et comment fait-on, Karim, pour négocier dans la rue, à l'extérieur, avec le client ?
C'est pas compliqué. Il vient avec sa voiture. Il a acheté la pièce de rechange. Je regarde la pièce. Je regarde la voiture. Je fixe mon prix. On discute. On tombe d'accord. Tic-tac. Je commence le boulot.
Et il n'y a pas de patron ?
Non, le patron, c'est moi. Les outils, c'est moi. Tout, c'est moi.
Et la formation, c'était en Côte d'Ivoire aussi ?
La formation, c'est au pays. On a appris en Côte d'Ivoire. C'est ça. Par exemple, les pneus, j'ai fait le démontage, j'ai fait le montage, je le fais, mais pas avec la machine, juste avec la main, je le fais.
La mécanique, c'est quelque chose d'intelligent ?
Ouais, de très intelligent.
Ouais. C'est très intelligent, parce que tu peux démonter plusieurs boulons pour rassembler. Mais voilà, les boulons 10, 13, 14, 16, ça ne peut pas rentrer dans le même endroit. Donc il faut retenir toujours dans la tête. Et voilà.
Arriver à démonter les pneus de voiture sans la machine.
Sans la machine. Ouais, les pneus sans la machine.
Changer les pneus, enlever l'ancien, mettre un nouveau pneu avec la main.
Avec la main.
Tout ça, c'est technique. J'ai vécu une expérience au Mali, dans le nord du Mali. On était en voiture, et on était deux voitures, et la voiture devant nous s'est retrouvé un moment avec la roue qui s'est retrouvée sur le côté, complètement, quasiment à angle droit. Tout le monde est descendu, conciliabule, il y a un palabre sur l'arbre. Et puis, à un moment, ils se sont décidés. Il y en a trois qui ont pris la bagnole, qui l'ont relevé. Deux autres qui ont pris la roue, qui l'ont mis en place. Ils ont démonté la roue de secours, ils ont pris la chambre à air. Chambre à air, ils ont rafistolé la roue, et on a pris la route. Et là, on s'est dit, chapeau. Et ça a tenu. Mais vous récupérez de temps en temps des pièces pour les réutiliser après
Oui.
Vous avez un petit stock alors ?
Oui.
D'accord.
On a des camions garés où souvent il y a des pièces qui peuvent passer plus de temps. Un client, je prends un exemple, un client qui n'a pas d'argent, voilà, qui veut rouler sa voiture, voilà, on peut le dépanner. Avec les anciennes pièces, tu vois, voilà. Le temps qu'ils trouvent de l'argent pour acheter le neuf, on le dépanne, bien.
vous êtes sacrément utile socialement. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent vous voir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un garagiste.
La plupart des clients, ils n'ont pas de moyens pour aller voir des garagistes. Ils viennent, voilà, on tombe d'accord, c'est tout. C'est comme ça.
Généralement, c'est comme ça. Ouais.
Généralement, en tout cas, la plupart des clients, c'est ça.
Et pour autant, puisqu'on avait essayé de nous, dans un projet de rénovation urbaine, d'installer dans un quartier une plateforme pour que la mécanique de rue puisse être reconnue quoi, officiellement, on avait interrogé les garagistes pour savoir s'ils considéraient que vous faisiez de la concurrence déloyale. Et ils nous avaient dit pas du tout. Parce que pour eux, vous ne faites pas le même métier, vous n'intervenez pas sur les mêmes véhicules. Quoi.
Non.
La plupart des voitures, vous, elles ont quel âge ça,
C'est des vieux voitures, 15, 20. Voilà, c'est des vieux voitures.
Même 30 ans. Quoi.
Même voilà. 30 ans, ouais. 30 ans, voilà. Ouais. Sinon, ce n'est pas de nouvelles voitures. Voilà. Où tu as acheté ça aujourd'hui?
Picasso, je peux venir vous voir là.
Ouais.
Ismaël. Bernard Stiegler, il imaginait qu'ici, à la plaine, laboratoire, on pourrait reconditionner une voiture thermique pour en faire une voiture électrique. Vous pensez que c'est possible, ça?
Oui, c'est possible, souvent. Parce que nous, on sait tout faire ici. Hein.
Transformer un moteur thermique en moteur électrique?
Oui, on peut le faire.
Vous pensez que...
C'est pas facile, mais on peut le faire, parce que nous, on sait tout faire.
À pleine commune, au métro Front Populaire, le garage à ciel ouvert d'Abou, Ismaël, Karim, Lassina se situait à l'endroit précis où s'est construit le campus Condorcet, un espace d'enseignement supérieur où sont déjà installés des séminaires venus de la vieille Sorbonne et qui attend une gigantesque bibliothèque qui regroupera les livres d'une quarantaine de centres de recherche. À peu de distance se tiennent les universités de Paris 8, de Paris 13, les archives nationales, celles du Quai d'Orsay, etc. À la pleine commune, Stiegler caressait l'idée d'une ingénierie simultanée. Pourrait-ce considérer, et pourquoi pas coopérer, des savoirs de différents niveaux dans un développement agile? Le mot de territoire apprenant est souvent utilisé aujourd'hui. Eh bien, il est tiré de l'arsenal néologique de Stiegler.
Son modèle... C'est l'académie platonicienne, et comme vous savez, dans l'académie platonicienne, on ne faisait pas que de la philosophie, mais aussi de la géométrie, mais aussi de la gymnastique. Et donc, effectivement, Stiegler a eu le rêve d'institution de savoir qui nous réconcilie avec ces savoirs pratiques dont nous sommes de plus en plus dépossédés. Et ça, je pense que ça vient en même temps de ses origines, de son attachement, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait quand même, au départ, une expérience du travail des mains, d'un certain nombre de savoirs pratiques que peu d'intellectuels ont, il faut bien le dire.
Le travail, c'est ce que l'on appelait autrefois l'ouvrage. Dans le mot « ouvrage », on entend le verbe « ouvrir ». Ouvrer veut dire « opérer ». Un travailleur ouvre un monde, qui peut être un tout petit monde, mais un monde, plutôt que ce qui nous apparaît de plus en plus comme étant l'immonde. L'ouvrage peut ouvrir le monde d'un petit jardin, plus ou moins secret, qui constitue un espace singularisé par quelqu'un qui produit ce que, dans un langage scientifique, on appellerait de la néganthropie, de la diversification, de la bifurcation, de l'inattendu, de l'improbable, de l'inespéré. Le travail, c'est cela. C'est néganthropique. Aujourd'hui, l'emploi est au contraire devenu absolument anthropique. Il ne produit que standardisation, répétition machinale et stupide, démotivation, et il ne se fait désirer que sous la menace permanente d'un chômage toujours plus brutal et angoissant.
Bonjour. Je suis l'une des voix que vous pouvez utiliser pour vocaliser votre site web. Intelligence Service, France Inter Jean Lebrun.
Intelligence Service.
France Inter Jean Lebrun.
Et la voix de Bernard Stiegler. Avait-il une voix singulière, Monsieur Lebrun?
Toute voix doit être singulière. Il disait qu'il ne faut pas se résoudre à une voix moyenne, artificialisée. Ce qu'on vient d'entendre provient de l'IRCAM qu'il a dirigé un moment et où il cherchait l'individuation des musiciens. Au cinéma, il aimait beaucoup le cinéma. Il prenait un exemple. Il disait qu'on ne pouvait synthétiser la voix de Jouvet avec celle de Michel Simon. Les deux jouaient ensemble, le je et le nous. Quant à sa voix propre, eh ben on l'entendait en fait à l'écrit parce qu'il dictait sans cesse dans son bain, dans sa cuisine, dans sa voiture. Ensuite, ses propos étaient jetés sur la table de la transcription et cela donnait des livres qui n'ont guère de retenue, mais un rythme, des feux d'artifice qui ne lésinent pas, il faut s'y habituer avec lui, sur la néologie.
Stiegler, l'un de ses grands maîtres à penser, c'est Jacques Derrida.
Marc Crépon.
Et Jacques Derrida, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle un grand inventeur et un grand théoricien des inventions néologiques. L'horizon philosophique de Bernard Stiegler, c'est la phénoménologie. Et la phénoménologie et la philosophie heideggerienne ensuite, ce sont des philosophies qui se caractérisent par une invention permanente de concepts. Donc il est l'héritier, en tout cas de cette façon-là de faire de la philosophie. Et puis, je pense que beaucoup de ces inventions conceptuelles se justifient parce que peut-être que pour penser un certain nombre de choses, on a besoin, ça fait partie de l'exercice de la philosophie, on a besoin d'inventer de nouveaux mots, on a besoin de ne pas ressaisir les choses dans des vieux mots qui ne permettent pas de les penser. Alors après, oui, c'est une langue qui, pour certains en tout cas de ses livres, demande un petit apprentissage. Et on est souvent en train de se demander en lisant « Ah oui, mais alors là, il a défini 10 pages plus haut ce qu'était ce terme-là, mais je suis pas sûr de m'en souvenir, je reviens 10 pages en arrière, je me rappelle et là j'avance. » Donc ça demande effectivement parfois un peu de va-et-vient, mais on s'en sort, et la conviction qui est la mienne, c'est qu'on sort toujours quand même assez enrichi.
Oui, Derrida, quand il est directeur de l'innovation de l'INA, Bernard Stiegler peut l'enregistrer comme il l'entend. Personne ne peut lui reprocher son utilisation des matériels d'enregistrement. La question que voici, vous allez en sortir enrichi, c'est un extrait. Elle dure en réalité 2 minutes 50. Au cas où vous ne le saisiriez pas d'emblée, elle porte sur les mécanismes de rétention et de sélection de la mémoire tels que peuvent les considérer les industries culturelles.
Cette production sélective, c'est à la fois un système de capture, de traitement, de diffusion et de conservation, au moins. Elle obéit à une critériologie, par conséquent. En quoi consisterait une politique de la mémoire, et en particulier, au regard de cette sélectivité? Il est bien clair que cette sélection, dans la mémoire en général, sous toutes ses formes, est irréductible. La question, si je vous ai bien lu, n'est pas dans le fait que l'artefactualité de ce que l'on pourrait appeler les industries de la mémoire sélectionne. Il s'agirait peut-être plutôt de la question non élucidée actuellement des critères de cette sélection. Pour préciser ma question, et si l'on veut bien poser que cette critériologie et surdéterminé par le caractère marchand de l'industrie, et donc commandé par le principe d'une réalisation de plus-value, s'agirait-il, par une politique de la mémoire, de réguler les effets que peuvent avoir une pression hégémonique du marché que peut avoir, pardon, une pression hégémonique du marché sur la construction de l'actualité. Une chaîne de questions très difficile. On n'avait pas prévu le chat, on le laisse.
Ben oui, parce que c'est lui qui sauve Derrida de la question écrite de Bernard Stiegler. Derrida aurait pu trouver une issue de secours en lui faisant plaisir, en lui disant que la rétention de la mémoire, c'est un pharmacone, la meilleure comme la pire des choses. On parlait industrie culturelle à cet instant, au cinéma. Il aimait beaucoup le cinéma. Stiegler, en revanche, détestait l'usage consensuel, mou, que faisait de la chanson populaire un film comme « Les choristes ». Il tenait en revanche de la plus haute estime « On connaît la chanson » d'Alain René. Était-ce parce que ce film recommandait de faire ce que font les chats, résister ?
Faut pas se laisser abattre, hein ? Ça m'étonne de toi, d'ailleurs. T'es tellement actif, t'es tellement volontaire, toi, d'habitude. Mais tu sais, faut te dire qu'il y a des gens qui ont mille fois plus de raisons d'être malheureux.
Eh bah bravo, bravo ! Ils sont très forts, très courageux, moi, non. Malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse.
Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste.
Résister. Bernard Stiegler trouvait pourtant ce mot souvent utilisé à mauvais escient. N'est-ce pas, monsieur Lebrun ?
Oui, plutôt que résister, il faudrait, disait-il, inventer. Nous sommes en réalité dans une société de flux tendus ininterrompus. Nous recevons parfois sur notre téléphone portable jusqu'à 50 alertes par jour. Le temps passé par les adultes devant la télévision était déjà énorme, mais celui passé par les jeunes devant les nouveaux écrans est plus considérable encore. Et les plateformes développent maintenant des mécanismes addictifs. Nous sommes des poissons rouges dans un bocal. Marc répond.
Pourquoi c'est si grave d'être réduit à l'état de consommateur ? C'est-à-dire être, dans le fond, soumis à des industries qui veulent produire de notre part tous les mêmes réflexes de consommation, parce que c'est ça qui est bénéfique à court terme, ça ne nous permet plus d'exister comme individus, ça ne nous permet plus de nous singulariser, et ça ne nous permet plus de nous aimer nous-mêmes. Et ne nous permettant plus de nous aimer nous-mêmes, ça ne nous permet plus d'aimer les autres, et ça tue le désir. Donc, dans le fond, nous sommes, comme consommateurs, la proie d'une exploitation de nos pulsions, d'une exploitation pulsionnelle. Et c'est ça la différence entre la pulsion et le désir. Il y a une chose qui est l'exploitation de la pulsion, comme l'est la pornographie, comme le sont toutes ces images, justement, cherchant à exciter en nous la pulsion de domination, la pulsion de pouvoir, des pulsions sexuelles, enfin tout. Et puis, il y a autre chose qui est, et c'est ça qui est, selon Bernard Stiegler, détruit, et dont il s'en est, qui est... notre capacité à nous construire comme des êtres de désir, ça n'est pas se voir réduit à l'état d'un consommateur dont on exploite à l'envi les différentes pulsions sexuelles de domination, etc.
Oh my God.
Si on admet que la télévision est ce qui exploite systématiquement les pulsions et qu'il est délit pour pouvoir les exploiter, alors ça veut dire que ces pulsions ne pouvant plus être liées, elles se déchaînent. Et évidemment, ce qu'on voit inévitablement, on voit d'abord se déchaîner les pulsions de vie, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre du sexuel, etc. Et à un moment donné, on voit apparaître des pulsions de mort, c'est-à-dire des pulsions de destruction.
C'est en Grande-Bretagne, sur Channel 4, que les programmateurs sont allés le plus loin.
la dissection de véritables cadavres le samedi soir.
Ces pratiques d'exploitation de la mise en scène de la mort à la télévision, elles trouvent leur terrain à la fois dans la satisfaction de la pulsion de mort dont je parlais tout à l'heure, mais en même temps dans la nécessité de mettre en scène, parce qu'il faut mettre en scène la mort. Une civilisation met toujours la mort en scène.
Le système qui cyniquement se fonde sur ses pulsions détruit tout, peu à peu. L'amour, qui ordinairement considère que son objet n'a pas de prix. La parentalité aussi. Le marketing télévisuel, note Stigler, s'adresse le plus tôt possible à des enfants de plus en plus jeunes pour qu'ils prescrivent à leurs parents des actes d'achat, alors que jusqu'ici on attendait des enfants de moins de 5 ans qu'ils s'identifient à nous. La chose publique se trouve pareillement atteinte. La télécratie contre la démocratie, c'était le titre d'un livre de Bernard Stiegler. Ce qui se passe aujourd'hui, il confirme dans son intuition. Les investisseurs qui embauchent Zemmour et Hanouna leur font faire une course à la surenchère, dont le but affiché est leur propre équilibre financier, mais dont le résultat est un soudain déséquilibre de la démocratie, laquelle demande des argumentations patientes et non l'excitation pulsionnelle. La clé de voûte est menacée. La clé de voûte, c'est le savoir délibéré, et aussi bien, de nouveau Patrick Braouezek, le savoir acheter.
Oui, savoir acheter. Pas simplement avoir du pouvoir d'achat, mais savoir acheter, c'est-à-dire avoir un vrai sens de ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, de ce qui est nécessaire à la vie et ce qui ne l'est pas. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de discuter avec lui pendant cette période de Covid. Mais je suis certain qu'on aurait, à l'issue de cette crise, eu des réflexions partagées sur cette question, sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et tout le monde a parlé de l'après-Covid et que le monde ne serait pas comme avant. Quand même le sentiment qu'on vient vite dans le monde d'avant. Et c'est dommage parce que je crois que là, il y avait une belle opportunité de se réinterroger sur nos modes de vie, sur nos pratiques, sur nos façons de faire. Moi, je me suis confiné en Touraine et j'ai vu la nature se transformer. C'est quelque chose que je n'avais jamais observé parce que j'étais toujours au boulot. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Voir en 3 mois la façon dont la nature se transforme et puis profiter de des salades et des tomates qu'on a plantées quelques semaines auparavant. C'est sans doute un apprentissage de nouveau de la vie. Il faut intégrer, et je crois que le savoir d'achat, c'est comme tous les autres savoirs. On était toujours sur l'idée du bien-être, du bien-vivre, du bien-savoir. L'idée que on a une responsabilité individuelle et collective, mais là encore, ça rejoint il faut qu'il y ait d'abord du collectif, il faut qu'il y ait du commun. Et qu'on a une responsabilité individuelle et collective sur nos vies. Et ça, c'était quelque chose qui me martelait souvent. Comment on peut sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui nous mène dans le mur.
Pendant et depuis notre étrange printemps 2020, Bernard Stiegler est intervenu dans Philosophie Magazine, dont il était devenu un compagnon de route. Il a vu dans le choc que nous avons subi un terrible avertissement pour l'humanité. Nous vivions à flux tendu, écrit-il, et à force de vouloir tout optimiser par les algorithmes, nous avions diminué notre résilience. L'ex-taulard a voulu espérer que le confinement avait suscité des moments de réflexion. Peut-être, alors, dit-il, sera-t-il plus facile de faire quelque chose ensemble. Arrêter de tout confier aux algorithmes doit permettre d'installer des dispositifs de délibération entre médecins et patients, entre économistes et salariés, entre élus et habitants. En tout cas, il a pensé que le moment était venu pour lui de passer le témoin.
Il avait, dans le fond, une très très grande attention à la jeunesse. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le parcours de Bernard Stiegler qui fait qu'à la fin, dans un monde quand même de plus désespérant, il y avait tout le temps, en même temps, des lueurs d'espoir, des attentes, des espérances. Et c'est quand même extraordinaire que, donc à la fin de sa vie, à un moment où probablement les choses étaient compliquées et sombres, il a fondé des espoirs dans le mouvement de Greta Thunberg, qu'il est, à ma connaissance, l'un des rares philosophes qui a tendu la main pour dire « Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cet extraordinaire mouvement de jeunesse qui se fédère autour d'elle ? Écoutons-la, prenons-la au sérieux, écoutons cette jeunesse-là et voyons comment le savoir philosophique peut s'accorder ou aller à la rencontre de cette parole inquiète et militante. »
Ce que Stigler espérait de la nouvelle génération, c'était en somme qu'elle dise ceci: nous en avons assez d'être calculés, nous voulons compter. Au lendemain de sa mort, Valentin Denis, Normale Sup Paris, et Marie Lelier, Sciences Po Paris, ont écrit « Nous avions trouvé enfin en lui une voix qui contrebalançait celle des éditocrates, des plateaux télévisés qui nous enjoignent de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre sagement la loi inéluctable du marché. » Et nos deux étudiants concluait, à nous d'écrire maintenant et de nous battre pour enfin bifurquer face aux catastrophes qui viennent. Remerciements à Marc Crépon et à Sandé Aubervilliers, à Patrick Braouezek, à Abou, Ismaël, Karim, Lassina, les lectures Grégoire Roqueplot, les archives à voix nue, France Culture, début 2020. À la prise de son, Élodie Royer et Thomas Robin. À la technique, Elisabeth Collet. La préparation d'Intelligence Service, Frédéric Martin, Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.